par actualité. Jeudi 6 avril 2017, jeudi Mossad sur la province du Québec et Clotilde Seille pour vous accompagner au Paractualité du jour. Alors les titres aujourd'hui, le bilan routier scelle le sort du virage à droite à Montréal, le défilé décousu, plusieurs artistes impliqués pour la cause de Certex. En l'entrée de plus s'installe à Saint-Mathias et puis quand le hockey change la vie de jeunes déficients intellectuels. Également à l'émission aujourd'hui, un programme innovateur pour la santé des enfants des Premières Nations. Et puis on vous présente Omar, un passionné de cuisine et YouTuber handicapé, consacré par les Maroc Web Awards. Une entrevue aujourd'hui avec Mathieu Franqueur, agent de mobilisation du FAS, autrement dit du mouvement Personnes handicapées pour l'accès aux services. Alors, le bilan routier scelle le sort du virage à droite à Montréal. C'est clair qu'il n'y aura pas de virage à droite à Montréal. Ça met le couvercle, a indiqué Denis Coderre ce matin. En fait, c'était donc hier matin et c'est d'après Pierre-André Normandin dans La Presse. L'augmentation du nombre de décès de piétons sur les routes du Québec incite Montréal à maintenir l'interdiction du virage à droite au feu rouge, a indiqué le maire Denis Coderre. La Société d'assurance automobile du Québec a présenté hier le bilan routier sur les routes de la province. Si le nombre de décès a globalement diminué l'an dernier, une hausse de 40% a été observée chez les piétons. Le maire de Montréal estime que ce bilan peu reluisant met fin au débat lancé par certains maires de l'île pour permettre le virage à droite au feu rouge, comme ailleurs dans la province. C'est clair qu'il n'y aura pas de virage à droite à Montréal, ça met le couvercle, a donc dit M. Coderre hier matin. Et pas question de revenir sur cette décision, a-t-il ajouté. Montréal reste ferme sur cette question. Défilé décousu, plusieurs artistes impliqués pour la cause de Certex, écrit Vanessa Picotte dans le Courrier du Sud. Le comédien Jean-Nicolas Véraud a accepté de soutenir l'événement bénéfice qui se déroulera le 11 avril à l'Étoile, à la salle L'Étoile Blanche, Banque Nationale. Ça, je pense que c'est sur la rive sud, dans le quartier 10-30. Plusieurs membres de la communauté artistique ont accepté de soutenir l'entreprise d'économie sociale Certex et de participer à la deuxième édition du défilé de mode bénéfice décousu. En plus de la porte-parole Catherine Lachance et de l'animateur Guillaume Lemaitier-Vierge, les comédiennes Marie-Chantal Perron, Pascal Montpetit et Nathalie Mallette, ainsi que Jean-Nicolas Véraud, ont accepté de soutenir l'événement bénéfice. Le comédien, qui s'est fait connaître pour ses rôles dans Tabou, Radio Enfer et Les aventures tumultueuses de Jack Carter, et que l'on a plus récemment vu dans Nouvelle Adresse et Toute la vérité, avoue avoir été tout de suite touché par la mission sociale et environnementale de l'entreprise. J'habite sur la rive sud et je ne connaissais pas Certex. Mais lorsqu'on m'a invité à visiter l'entrepôt, c'est à ce moment que j'ai compris l'ampleur de leur travail, raconte Jean-Nicolas Véraud. En visitant, je ne pensais pas voir quelque chose d'aussi énorme. Ils ont développé une expertise qui est extrêmement concluante. Alors que l'intégration des personnes handicapées sur le marché du travail est un sujet d'actualité, Jean-Nicolas Véraud a été frappé par l'expertise que Certex a développée auprès des personnes ayant des limitations physiques ou mentales depuis les 25 dernières années. Il faut un immense travail auprès de ces personnes et ils ont créé une énorme communauté autour d'eux, explique Jean-Nicolas Véraud. Ce n'est pas évident de les intégrer sur le marché du travail et dans la société alors que Certex le fait de manière remarquable. Il croit que d'autres entreprises devraient emboîter le pas et utiliser l'expertise de Certex pour s'établir. Ça demande vraiment une attention particulière, mais c'est clair que, comme société, nous devrions nous diriger vers les entreprises d'économie sociale comme Certex, explique-t-il. Je ne peux pas imaginer que ça puisse se prêter à toutes les entreprises, mais il y a certainement un effort à faire. Précédant le défilé de mode qui aura lieu le 11 avril à l'Étoile, Banque Nationale, un cocktail dînatoire est prévu dans le hall d'entrée où un encan silencieux présenteront de nouveaux lots des plus inusités s'y déroulera afin d'amasser des fonds pour soutenir la mission de Certex. Et Jean-Nicolas Véraud y prendra part pour y remettre un de ses prix. L'organisme L'Entraide Plus, qui soutient les aînés et les aidants naturels, ouvre un nouveau point de service à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Les bénévoles désiraient ainsi franchir la barrière du pont Youl afin d'aider leur clientèle. Nous voulons nous rapprocher des aînés et des aidants naturels, surtout en milieu rural. C'est une clientèle plus difficile à rejoindre, a affirmé la directrice de L'Entraide Plus, Louise Pilette. Le nouveau local, situé au 300 Chemin des Patriotes, accueillera les résidents de Richelieu, Marieville et Saint-Mathias-sur-Richelieu à compter du 10 avril. Il sera ouvert les lundis, mardis et mercredis de 11h à 14h et les jeudis de 11h à 16h. En plus des services déjà offerts à Chambly, tels que le soutien aux hommes et l'accompagnement au deuil, d'autres s'ajouteront. Les participants pourront notamment aller magasiner aux promenades Saint-Bruno le deuxième jeudi de chaque mois. Ils auront aussi l'occasion de coudre ensemble pour effectuer des réparations mineures. Bien qu'un repas complet ne sera pas offert comme au resto Entre à Chambly, les aînés pourront déguster tous les jours une soupe au coût de 2 $ et ceux qui désireront obtenir une carte de membre devront débourser une somme de 20 $ par année. Ces services pourront être offerts à la clientèle grâce à une subvention de 10 100 $ provenant de la MRC de Rouville. Cette somme a permis notamment d'aménager les lieux pour qu'ils soient accueillants. Une toilette pour les handicapés a été complètement rénovée et de l'équipement tel que des ordinateurs et du mobilier a été acheté. Notons pour finir qu'une partie de l'argent servira également à payer le salaire pour une journée de l'employé de L'Entraide Plus, responsable de ce point de service. Quand le hockey change la vie de jeunes déficients intellectuels, c'est un texte de Kim Vallière. Le sport, dans sa forme la plus pure, c'est ce qui décrit le mieux ce qui se produit sur la patinoire lorsque les joueurs des Condors d'Ottawa s'y présentent tous les samedis. Ils ont tous une déficience intellectuelle, mais pendant un instant, leur différence est oubliée et ils se rassemblent autour d'une passion commune, celle du hockey. Un tiers des membres des Condors vivent avec un trouble du spectre de l'autisme, un tiers avec la trisomie et les autres ont des différences variées. Le premier critère est de ne pas être en mesure de jouer dans une équipe traditionnelle de hockey, explique M. Perkins, qui a mis sur pied les Condors avec sa femme Shanna, même si leurs propres enfants ne vivent pas avec une différence comme les joueurs de leur organisation. « Il y a 11 ans, ma femme et moi avons vu des enfants avec des besoins spéciaux patiner à Toronto. » J'ai parlé à un des hockeyeurs pendant 5 minutes après l'entraînement et il rayonnait de bonheur. Quand je suis revenue auprès de sa mère, elle était en pleurs parce que 6 mois plus tôt, il était complètement coupé socialement de tout le monde, même de sa famille. Et maintenant, il pouvait avoir une conversation confortable avec un étranger, poursuit-il. Elle m'a dit que leur monde avait complètement changé uniquement parce que son fils appartenait désormais à une équipe. Les Perkins ont tout simplement constaté qu'une initiative du genre n'existait pas à Ottawa et ils ont décidé de remédier à la situation. Les jeunes garçons et filles qui font partie des Condors ne rêvent pas à la Ligue nationale de hockey. Certains tiennent à peine debout sur leurs patins. Et puis d'autres préfèrent dessiner sur la glace plutôt que de patiner. Ce qui est spécial pour Chloé, c'est qu'ici, tout le monde est son ami, tout le monde s'entraide. Elle se sent incluse, explique Charilyn Lawson, la mère d'une adolescente de 14 ans atteinte de trisomie, qui est sortie de sa coquille depuis ses débuts avec les Condors en janvier. Il suffit de voir le sourire de Chloé lorsqu'elle pointe les lacets roses de ses patins pour comprendre que son bonheur est complet quand elle passe la porte de l'aréna. Sa nouvelle passion pour le hockey se résume à 2 mots, jouer et patiner. Le sport a aussi transformé la famille de William Allard. Personne ne s'intéressait au hockey chez le jeune homme de 17 ans avant que les Condors n'entrent dans sa vie. Ils amènent un William qui parle tout le temps de hockey, qui est heureux de venir aux entraînements et qui veut absolument faire les tournois, explique sa mère Diane Allard. Sa voix est étouffée par l'émotion lorsqu'elle parle de la fierté qu'elle ressent devant les progrès de son fils, qui vit avec un trouble du déficit de l'attention et la dyspraxie, qui cause des difficultés motrices apparentées à de la maladresse. Ils connaissent des succès et c'est ça qu'on veut pour ces enfants-là. William est devenu gardien de but. Après sa première année dans l'équipe, une transition facilitée par un entraîneur qui a décortiqué chaque mouvement pour lui, afin qu'il puisse mieux les comprendre. « Je me décris comme un joueur qui fait tout pour son équipe, un joueur qui ne fait pas juste penser à lui », affirme le principal intéressé, dont le grand cœur ne vise pas seulement les membres de son club. Écoutez bien ça. Pendant la Coupe Capitale Bell à Ottawa l'hiver dernier, William a décidé de laisser passer une rondelle lorsqu'il a constaté qu'un adversaire s'avançait vers lui avec difficulté. Ça nous rappelle, et j'en suis tout émue, ça nous rappelle ce que le hockey devrait être. La compétition n'est pas toujours prioritaire. Je pense que les gens devraient venir nous voir. Ça leur permettrait de prendre du recul en voyant le plaisir qu'éprouvent les jeunes, tout en s'améliorant, note Shane Le Boutillier, un entraîneur de la première heure des Condors. C'est tellement agréable de venir les entraîner. Quand on commence, on ne peut plus arrêter. C'est bien de donner aux enfants, mais ils nous redonnent beaucoup plus au final. L'équipe s'apprête à relever un nouveau défi en participant au USA Disabled Hockey Festival, un événement qui rassemble des équipes avec des déficiences intellectuelles, visuelles ou auditives. Le hockey sur luge et le hockey pour amputés y sont également présentés. La compétition aura lieu à San José, en Californie, du 6 au 9 avril. Ça s'en vient. Le FAS est un mouvement que nous connaissons bien, dont il est souvent question ici sur les ondes de Canal M, cette coalition qui a pour mission de mobiliser les personnes en situation de handicap et leurs proches pour promouvoir et défendre collectivement le droit d'accès à des services sociaux et de santé qui répondent aux besoins des personnes handicapées. Alors, le FAS, le mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services, est aujourd'hui représenté par Mathieu Francoeur, qui est agent de mobilisation et qui est à l'autre bout du fil. Bonjour, Mathieu.
Bonjour, Madame Thèse, ça va bien?
Mais vous-même?
Ben, très bien, ça fait plusieurs fois qu'on se parle, toujours agréable.
Ben oui, j'adore ça. Remarquez maintenant, écoutez, on va s'appeler Mathieu et Clotilde.
Oui,
hein?
Tout à fait, oui,
ça fait. Ah oui, oui, regardez, on va lâcher le Monsieur Francoeur et le Madame Saïd, d'accord. Alors, on se parle aujourd'hui, Mathieu, pour une raison bien précise, mm-hmm. C'est que c'est le lancement de la campagne Mouvement FAS 2017.
Oui, bien, 2017-2018, parce que l'objectif, oui. C'est de se rendre jusqu'aux élections provinciales de l'automne mm-hmm. 2018. On est en train de préparer ça, on va la lancer dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais on veut vraiment se donner un bon coup, là, si on peut, avant les élections, pour avoir des engagements au niveau des partis politiques, pour des réinvestissements en déficience physique, en oui. déficience intellectuelle. En autisme, il y a eu un investissement intéressant il y a deux semaines, oui. qui n'est pas assez, mais c'est quand même un pas en avant.
Oui.
Mais on veut avoir la même chose pour les autres déficiences et puis pour toutes les personnes concernées qui sont en situation de handicap pour leurs proches. Fait qu'on va essayer de rassembler le plus de groupes possible mm-hmm. et de faire une campagne qui va faire du bruit dans les prochains mois.
Parlons de groupes, quels sont les principaux organismes réunis au sein du FAS, Mathieu?
Officiellement, on est une coalition provinciale, mais on est surtout mobilisé à Montréal. Faute de moyens d'être un petit peu partout, je dirais. Mais c'est beaucoup t'as les regroupements régionaux en déficience physique et déficience intellectuelle et en autisme, mais beaucoup les groupes de base. Donc, ils travaillent directement avec les gens, avec les parents ou avec les personnes elles-mêmes. Des groupes, je peux vous nommer des groupes qui sont impliqués avec nous, par exemple, Autisme Montréal, Ex-Equo, mm-hmm. Mémo Québec, donc des groupes qui ont à la fois un volet service et un volet défense des droits, je vous dirais,
mm-hmm.
et qui sont intéressés à mobiliser leurs membres pour faire des campagnes plus larges. Qui touche donc les grands enjeux puis les réinvestissements dans les services sociaux.
Alors, parlons-en de cette campagne un petit peu plus précisément.
Oui, oui.
Donc, vous nous le disiez, c'est vraiment, entre autres, de mettre la pression sur le gouvernement du Québec hein, afin qu'il assume ses responsabilités.
Exactement.
Est-ce qu'on a bon espoir que ça va bouger les choses?
On le fait déjà, beaucoup de gens le font dans notre milieu, dans d'autres milieux à l'année
mais
longue,
oui.
C'est sûr que c'est pas évident.
Non.
On veut mettre la pression sur le gouvernement du Québec jusqu'à temps qu'il soit, pendant qu'il est toujours là, finalement. Et en vue des élections, on veut aussi mettre la pression sur les autres partis politiques pour qu'ils
oui.
s'engagent.
Oui, il faut. Hein. Écoutez, en période électorale, là...
C'est un des moments pour avoir au moins des engagements. Ils ne seront pas toujours respectés après,
non,
mais au moins on a des choses pour avoir des leviers.
Oui.
Et c'est sûr qu'on va être visible. Donc, l'idée, c'est d'avoir une diversité de groupes qui vont participer à la campagne. En gros, ce qu'on veut faire, c'est à Montréal et on aimerait ça dans d'autres villes au Québec, à chaque semaine ou à chaque deux semaines, au même endroit, à la même heure, faire une activité, que ce soit une manifestation, une pièce de théâtre, un atelier, okay. Mais que ce soit au même endroit, qu'il y a une espèce d'habitude qui se prenne, que les médias, comme les gens du milieu, comme la population, sachent qu'il y a quelque chose à ce moment-là, du milieu des personnes en situation de handicap et leurs proches, pour porter nos revendications, donc semaine après semaine. Ça serait basé sur les membres des groupes, donc il y aurait une participation des membres des groupes de base pour qu'ils puissent exprimer leur réalité, exprimer leurs revendications. Et on voudrait cumuler tout ça avec un grand rassemblement, donc en 2018. Donc.
Ça, c'est ce que vous appelez une campagne en cascade. Hein?
Exactement, c'est ça. Donc, on pourrait dire en crescendo, en cascade, en répétition, c'est-à-dire de toujours un peu taper sur le même clou, toujours montrer qu'on est là, qu'on ne nous oublie pas, finalement. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme sorte d'action? Piquetage, je ne sais pas, conférence, regroupement?
Oui, le côté artistique aussi, parce qu'il y a beaucoup de groupes dans le milieu qui font des différents types d'art, de création. Donc, on pourrait avoir des événements beaucoup plus flamboyants ou beaucoup plus visuels, je dirais.
Oui.
Mais aussi beaucoup d'activités de sensibilisation aussi, évidemment. Donc, c'est sûr que le lieu qu'on choisirait serait pas dans un parc industriel, serait sûrement dans un lieu assez passant,
en
lien avec les politiques et bon, tout ça, le réseau de la santé. Mais l'idée, c'est à la fois de rejoindre la population, d'attirer les médias et aussi de se mobiliser entre nous et de se connaître aussi encore mieux entre les groupes.
Et puis, il faut préciser peut-être pour les gens qui nous écoutent en ce moment, qui se disent, mais ça se passe où et c'est quand? Oui, c'est pas en ce moment, là.
Non, ce sera
entre l'automne 2007 et le printemps 2018. C'est bien ça, 2017-2017.
Exactement. On va commencer à la fin de l'été, mais on est en train de préparer tout ça parce que c'est sûr qu'il faut mobiliser tout le monde, faut faire un genre d'échéancier ou de calendrier. Faut aussi préparer tout notre matériel, nos revendications. Fait qu'on l'annonce aujourd'hui parce qu'on veut que les groupes s'y intéressent.
Oui.
Et ce qu'on va faire surtout dans le plus court terme, c'est qu'autour des assemblées générales annuelles, il y en a beaucoup en mai et juin, on veut faire circuler une lettre.
D'accord.
Une lettre donc ouverte qui dit que le milieu est mobilisé.
Oui.
Et on veut que le plus de groupes possible embarquent là-dedans pour montrer que le milieu est le plus uni possible et le plus sur un mode de revendication.
Bon, et puis nous, évidemment, on sera à vos côtés pour diffuser toutes les informations possibles et inimaginables.
On y compte bien, oui.
Oui, c'est sûr. Dites-moi, dans les actions prévues, comment, quel genre d'invitation on peut faire à nos auditeurs en ce moment pour qu'ils s'y mettent aussi, hein, pour qu'ils amènent leur goutte d'eau là-dedans.
Oui, ben c'est sûr, parce que c'est des groupes qui travaillent déjà avec FAS, qui organisent ça en ce moment, mais on est ouvert à d'autres collaborations, c'est
d'accord.
sûr. Si les gens ont des idées, ou ont des idées de lieux, des idées de type d'action ou d'événement,
okay. On communique comment? Oui,
ben,
c'est
par
ça.
Par notre site Internet, ils peuvent avoir les courriels, le numéro de téléphone, sans problème.
Alors, c'est mouvementfas, .org, là, je l'ai sous les
exactement,
yeux.
Exactement, mouvementfas, PHAS, donc .org.
D'accord.
La page Facebook mouvementfas aussi, évidemment.
OK.
Et dans la campagne aussi, on aimerait ça, si possible, travailler avec d'autres acteurs du réseau de la santé.
Oui, d'autres organismes.
Oui, exactement. Okay. Donc, que ce soit des regroupements de professionnels, des syndicats ou toutes sortes de gens dans le réseau qui trouvent qu'il faut que ça change parce qu'il y a vraiment une perte d'accès aux services depuis quelques années. Donc, ils veulent travailler avec nous pour mettre ça sur la place publique, puis être visible, puis revendiquer que c'est vraiment fondamental qu'on ait des réinvestissements pour aider, pour donner des services aux gens.
Oui, il faut qu'on s'y mette. Voilà, vous avez raison. Il faut qu'on s'y mette tous et toutes, individus et organismes, absolument. Alors, je rappelle que pour s'informer, c'est Mouvement FAS en un seul mot. Et FAS, c'est bien PHAS comme PH comme personne handicapée.
Exactement.
.org.
Exactement.
Merci beaucoup, Mathieu Francaire. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment.
Mais oui, merci, Cathilde.
Mais de rien, Mathieu. Passez une belle journée. Salut, bye-bye. Oui. Par actualité nationale, un programme innovateur pour la santé des enfants des Premières Nations. 2 heures. C'est la durée du trajet que Valérie Thompson devait répéter pour conduire sa fille Rayana chez son audiologiste à Selkirk, au Manitoba. Et grâce à un nouveau programme, la fillette peut maintenant recevoir des soins dans sa communauté, qui s'appelle Pinemutang, à environ 220 km au nord-ouest de Winnipeg. Et c'est un texte de Stéphanie Kram. À l'âge de 2 ans, les docteurs lui ont diagnostiqué une perte auditive et à 10 ans, un diagnostic de chromosome 12, donc le syndrome de délétion, s'est ajouté, raconte Madame Thompson, sa maman. Ce syndrome a causé la perte auditive de Rayana et a ralenti sa croissance. Mais une initiative de Pinemutang permet maintenant à Rayana d'être soignée dans sa communauté où vivent près de 3 000 personnes. Ce programme intitulé « Mon enfant, mon cœur » a été mis sur pied en 2015 pour que les enfants ayant des besoins médicaux complexes puissent recevoir des soins sans devoir quitter leur communauté. Les familles de la communauté ont choisi ce nom parce qu'elles ne voulaient pas que leurs enfants soient étiquetés selon leurs besoins de santé. Avant, Mme Thompson conduisait Rayana à ses cours de langue des signes une fois par semaine à Ashern, à environ 50 km de Pinemoutang. Les cours se déroulent maintenant dans la maison familiale. Alors, grâce à cette proximité, les frères et sœurs de Rayana sont aujourd'hui en mesure de communiquer avec elle. En ce moment, 27 enfants sont inscrits au programme. Les besoins médicaux sont nombreux. Troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité, autisme, retard de la parole, pour n'en nommer que quelques-uns. La directrice générale du Centre de santé de Pinemoutang, Gwen Travers, indique que le programme a été créé pour que les enfants de la communauté reçoivent le même niveau de soins que les enfants vivant en milieu urbain. Les gens croient que les Premières Nations profitent de tout cela gratuitement, alors qu'en réalité, nous survivons, déclare Mme Travers. Ça suffit, nous méritons des services équitables dans nos communautés. Elle raconte qu'au fil des ans, de nombreuses mères sont venues la voir pour lui demander « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais pendant ma grossesse pour que mon enfant naisse de cette façon ?» Je leur disais, la vie t'a donné cet enfant. Le Créateur t'a donné la force d'élever un enfant handicapé. Alors, 4 employés travaillent pour ce programme, une gestionnaire de cas qui est infirmière auxiliaire et 3 travailleurs sociaux issus de la communauté. D'autres spécialistes se déplacent selon les besoins des enfants. En majorité, les fonds du fédéral sont alloués au cas par cas, ce qui signifie que les demandes de soins sont envoyées par les professionnels qui travaillent dans les communautés. Des enfants doivent encore souvent quitter cette communauté pour recevoir les services médicaux dont ils ont besoin. Et en plus de couvrir les coûts des soins de santé pour les enfants, les fonds du principe de Jordan sont accordés à des programmes gérés par les communautés, comme celui de Pinemoutang. Madame Travers souligne que d'autres communautés l'ont approchée pour apprendre comment mettre sur pied un programme semblable à celui de « Mon enfant, mon cœur ». À l'international maintenant, laissez-moi vous présenter Omar. Omar est un passionné de cuisine, un YouTuber aussi handicapé, consacré par les Maroc Web Awards. Alors, de quoi s'agit-il? D'un sujet, ma foi, bien sympathique. Depuis 2 ans, l'adolescent marocain revisite les recettes du monde entier. Il est atteint d'une dystrophie musculaire. Il partage ses créations sur sa chaîne. Il bénéficie d'un soutien régulier des internautes et des médias. La limonade maison, les sushis ou encore les brioies au fromage, ce sont les 3 recettes les plus vues, signées Omar, 11 ans. La chaîne « Apprenez à cuisiner avec Chef Omar » a vu le jour en avril 2015. Et là, je vois mon camarade Mathieu se ruer sur son ordinateur, sur son écran, pour aller trouver cette page, ce site web, pardon, « Apprenez à cuisiner avec Chef Omar ». Donc, ça a vu le jour en avril 2015 et le Chef Omar affiche une 50aine de préparations. Le 2 avril, le jeune Casablancais, est devenu nommé et a été personnalité web de l'année au Maroc Web Awards. Une consécration pour celui qui rêve de devenir rien de moins que le plus grand chef du monde et dont la devise est « Je ne suis pas différent de vous, je suis différent comme vous ». Le jeune homme était en finale face à 14 autres candidats. On a pu le voir sur des télévisions local, de l'autre côté de l'Atlantique. Filmé par sa maman, le YouTuber confectionne des plats grand public dont il adapte les recettes en fonction de ses goûts et des moyens du bord. Vous n'avez pas de saumon frais à portée de la main? Qu'à cela ne tienne, le chef vous conseille d'en prendre sous la forme de filets fumés. Parfois, le jeune homme met une touche locale à ses créations, comme le crumble aux épices marocaines. Les gestes sont plus lents qu'avec un cuisinier professionnel. Le propos est parfois hésitant. Mais la régularité et l'enthousiasme ont suscité l'intérêt des internautes. Le chef a été vite remarqué. Quelques mois après avoir commencé à officier, Omar a été, je vous le disais, invité sur 2M, une grande chaîne marocaine. Il a pu montrer sa recette du pain perdu à l'antenne. Et puis, c'est au tour de France 24 de faire connaître le jeune cuisinier 2.0 en lui donnant une audience à l'étranger. C'est un papier qui était signé Reski Mamar. « Nous avons quelques annonces à vous faire pour terminer cette émission. Le Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay recherche des bénévoles pour son service aux personnes nécessitant un accompagnement pour le transport vers un rendez-vous médical ou encore pour de l'aide à la marche. Alors, j'ai pour vous un nom et un numéro de téléphone, si vous voulez bien vous donner la peine de le noter, dans le 450, le 699-6289. Je répète, dans le 450-699-6289 et vous pouvez contacter Joanne. La FADOC Saint-Jean-Baptiste Marie-Vianney est ouverte aux nouveaux membres. Alors, ceux et celles qui désirent s'amuser dans la fraternité sont les bienvenus. On obtient de l'information auprès de Jacinthe Benoît. Le numéro de téléphone est 450-699-4362. Jacinthe, 450-699-4362. C'est la dernière semaine pour commander votre matériel promotionnel de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Chaque année, du 1er au 7 juin, se déroule la Semaine québécoise des personnes handicapées. En 2017, le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive » animera la 21e édition de celle-ci. Alors, vous avez jusqu'au 7 avril, autrement dit, jusqu'à demain, pour remplir le bon de commande sur le site de l'OPHQ, afin de commander gratuitement votre matériel promotionnel pour la Semaine québécoise des personnes handicapées. La semaine arrive à grands pas, alors il faut être prêt. Et puis enfin, l'INCa, je vous le rappelle, j'en parlais déjà hier, vous invite à une activité spéciale de consultation pour les jeunes de 18 à 35 ans pour nous aider à planifier les activités futures de l'organisme et à développer des programmes qui répondent aux besoins des personnes aveugles ou ayant une vision partielle. Alors venez vous renseigner sur les projets actuels et partagez vos opinions sur la façon dont INCa peut améliorer encore davantage la vie des personnes vivant avec une perte de vision dans les années à venir. Ça se déroulera quand? Eh bien, le mercredi 12 avril, à quelle heure? De 18h30 à 20h au 3044 rue Delisle à Montréal. 3044 rue Delisle à Montréal. On s'adresse à pascal.roy@inca.ca. Bonne fin de semaine, tout le monde. À lundi, 11h30.